Nous continuons notre série sur l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 18, nous avons parti avec un verset extraordinaire. Un verset, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon Église. » Jésus s'est adressé à ses apôtres. Alors, on a parti de ce verset-là, et on a vu les messages, on a vu les volets, « Je bâtirai mon Église », la naissance de l'Église, la vie de l'Église, pourquoi aller à l'Église. Et aujourd'hui, nous entamons notre cinquième volet, la croissance de l'Église. Pour cela, nous allons prendre... Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 39. Vous savez, on reste dans le livre des Actes. Si nous voulons vraiment comprendre le mystère de l'Église, la vie de l'Église, le Saint-Esprit, nous devons aller dans le livre des Actes. C'est un livre tellement... c'est tellement un livre extraordinaire. C'est non seulement un livre historique, il y a beaucoup de gens qui ont étudié l'histoire du livre des Actes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de noms dans le livre des Actes. Il y a beaucoup de noms qui sont nommés. Et il y a des gens qui ont vérifié beaucoup l'authenticité de la Bible par le livre des Actes. À cause justement de l'histoire, des villes également, tout ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Et aussi, l'action du Saint-Esprit, comme je vous ai dit, le livre des Actes, c'est le livre du Saint-Esprit. Alors, nous allons aller dans le chapitre 2, le verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Alors, ça, c'est notre verset aujourd'hui pour la croissance de l'Église. Il y a beaucoup d'assemblées chrétiennes aujourd'hui. Il y a des assemblées aussi qui se disent chrétiennes, qui ne le sont pas, des églises qui sont formées plus de non-chrétiens que de chrétiens, parce qu'il y a de certaines régions, certains pays dans le monde que c'est plus une habitude de se nommer chrétien. Mais malgré cela, il y a plusieurs d'entre elles qui sont souvent très florissantes. Il y a beaucoup d'églises non chrétiennes qui ont du succès. Et pour quelqu'un qui est motivé par la croissance de l'Église, nous pouvons regarder ces églises-là et être très séduits et de prendre les mêmes stratégies, le même marketing que ces assemblées-là ont pris pour justement augmenter le nombre de membres dans leur Église. Et sur le marché présentement, vous avez des livres, il y a des séminaires qui se donnent, il y a des sermons sur la croissance de l'Église, il y a des sermons qui sont donnés, des séminaires, des livres, justement, qui proviennent de ces églises-là, qui souvent sont non-chrétiennes, mais qui ont quand même du succès. Mais comme j'ai dit auparavant, alors qu'on veut vraiment conduire la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre que les stratégies qu'on va prendre pour augmenter le nombre de personnes dans l'Église, pour que l'Église puisse croître, souvent, les stratégies qu'on va prendre vont probablement être différentes de ces églises-là. Comment Christ construit son Église? Nous savons que Dieu a décidé d'utiliser l'être humain afin d'accomplir ses fins. Nous avons la responsabilité nous a été donnée de prêcher l'Évangile sur toute la terre. Par nous, Dieu montre à l'humanité toute la puissance de l'Évangile. C'est une lumière qui luit devant les hommes afin qu'ils puissent voir nos œuvres et donner la gloire à Dieu. En fait, Dieu utilise l'homme. Nous sommes à l'œuvre dans l'Église avec la puissance du Saint-Esprit et nous sommes aidés également par des anges qui sont mis à notre service. Par quel moyen Dieu bâtit son Église à l'aide du chrétien? Honnêtement, je n'ai jamais vu un pasteur, des dirigeants d'Église, des membres d'Église qui ne veulent pas que leur Église avance, qui ne veulent pas que leur Église, que le nombre de membres augmente. Je pense que sincèrement, nous voulons que l'Église croît et que les gens soient sauvés. Nous voulons que l'Église soit en bonne santé et je pense que c'est un désir tout à fait normal. Et je pense qu'en tant que dirigeant d'Église, en tant que vous être membre d'Église, vous voulez que l'Église Renaissance, qu'il y ait plus de monde, que l'Église soit en bonne santé, que l'Église puisse croître. Mais le désir que nous avons, et souvent ce désir-là pousse des gens à acheter les mauvaises stratégies pour justement faire croître l'Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Je bâtirai mon Église. Il n'y a aucun doute. L'Église a été identifiée par Jésus-Christ depuis toute éternité. Et les noms sont déjà dans le livre de vie. C'est déjà fait. Jean chapitre 6 nous dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et que je ne perde aucun de ceux qui m'ont envoyé. » Alors, il n'y a personne qui va être oublié. L'Église va être bâtie. On n'a pas à se casser la tête d'essayer de convaincre les gens. Les gens sont convaincus par le Saint-Esprit et Dieu bâtit l'Église. Autrement dit, la fin est déjà annoncée. Ceux qui sont sauvés sont connus de Dieu avant que quiconque ait existé. On les appelle les élus. Alors, Dieu va bâtir son Église. Jésus va bâtir son Église et il le fera. Il va réunir son troupeau. Comment le fera-t-il? Par quels moyens? Est-ce qu'il nous l'a révélé? Ou bien nous avons à prendre des stratégies du monde, des stratégies des Églises non chrétiennes pour justement avoir la clé de comment faire croître une Église? Ou c'est quelque chose qu'on va apprendre avec le temps. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que la croissance de l'Église, on devrait avoir une clé dans chaque Église. Puis trouver une clé, comment faire croître l'Église. Franchement, bâtir une Église, ce n'est pas une chasse au trésor. On n'a pas le temps à perdre, à essayer de trouver des moyens par, je ne sais pas par quel genre de façon, afin de faire croître l'Église. Dieu nous a révélé cette façon-là. Ce n'est pas une réponse obscure, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, ce n'est pas quelque chose que nous allons essayer d'apprendre avec le temps, malgré qu'il y a des conférences, malgré qu'il y a des livres, malgré qu'il y a des séminaires concernant la croissance d'une Église, et ce n'est pas mauvais. Et je sais qu'il y a beaucoup de leaders chrétiens, des gens expérimentés, qui vont donner leurs propres idées de croissance. Et je crois également que tout dépendant de certaines Églises, l'endroit qu'ils sont, le nombre de personnes, le nombre de membres. Alors, il y a plusieurs façons de faire dans des églises différentes. Et ça, je suis d'accord avec ça. Il y a des églises qui vont être impliquées dans la communauté. Il y a des églises qui vont être impliquées dans l'évangélisation. Il y a des églises, c'est plus... c'est toutes sortes de ils sont dans d'autres choses. Oui, il y a des stratégies, il y a des séminaires, c'est bon. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit par rapport à la croissance de l'Église? Alors, la vérité, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. On doit regarder à la base la manière de faire. Puis la manière de faire, c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. Un livre donné par le Saint-Esprit qui nous donne la vie, qui régénère les croyants, qui donne la vie à l'Église, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, le Saint-Esprit nous donne la façon de voir pour la croissance de l'Église. Et l'Église se construit au chapitre 2, verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » On voit déjà le processus de Dieu qui veut construire son Église par les Juifs, par les enfants et par les gentils qui sont au loin. Alors, c'est vraiment dans le livre des Actes qu'on peut voir la croissance de l'Église. Chapitre 1, verset 12. Ceux qui suivaient Jésus retournent à Jérusalem, entrent dans la cité, vont dans la chambre haute. Les apôtres, la mère de Jésus, ils sont 120 à prier dans le même esprit et c'est là que l'Église part de Jérusalem. La première Église, comme on s'est parlé, c'est l'Église de Jérusalem. Ils sont 120 dans la chambre haute. L'Église commence dans la chambre haute. Chapitre 1, verset 12. Chapitre 2, verset 4. L'explosion de l'Église. De 120, ils partent à 3000 âmes. La fête de la Pentecôte. Chapitre 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, de plus en plus, il y a des gens qui acceptent le Seigneur. Chapitre 4, deuxième sermon de Pierre. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre d'hommes s'élevèrent à 5000. Voyez la progression. Chapitre 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient augmentait de plus en plus. Chapitre 6, verset 7. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Alors, il y a encore une explosion de fidèles. Chapitre 9, verset 31. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, l'Église part de Jérusalem. L'Église continue, elle s'en va en Judée, en Galilée, Samarie, et continue à croître. Chapitre 12, verset 24. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Chapitre 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. On sort d'Israël. C'est la fin du ministère de Pierre, c'est le début du ministère de l'apôtre Paul. Chapitre 17, verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent. Ainsi que beaucoup de femmes grecques, on est rendu en Grèce, de femmes grecques, de distinction et beaucoup d'hommes. L'Église continue à augmenter. Chapitre 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. On sent jusqu'à la fin de l'Acte des Apôtres, chapitre 28. Paul a prêché le royaume de Dieu et a enseigné en Asie mineure jusqu'à Rome. Et l'Église a littéralement explosé. L'histoire de la croissance de l'Église, c'est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 28. Il n'y a pas de plus bel exemple que le livre des Actes pour la croissance de l'Église. Mais ce qui m'intéresse ce matin, on voit qu'il y a eu une croissance du chapitre 1 jusqu'au chapitre 28. Et c'est quoi les marques de cette croissance? Je pense qu'il y a plusieurs marques, mais j'aimerais parler de quatre marques dans cette croissance d'Église-là. La première marque que l'on voit, un message transcendant. Un message transcendant, c'est un message qui excelle en son genre. C'est un message qui commence dans le cœur du judaïsme, c'est un message qui commence à Jérusalem. Le message de l'Évangile. On est à Jérusalem, c'est un environnement qui est très religieux. Après ça, on s'étend à l'extérieur de Jérusalem, toujours connecté au judaïsme. On s'en va dans la Galilée, Après ça, on s'en va dans le monde des gentils, où il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs religions. Il y a des religions partout dans ce temps-là. Aujourd'hui, on a des grandes religions qui regroupent beaucoup de personnes. Mais à l'époque, c'était très différent. C'était plus compliqué. Il y avait une multiplicité de dieux. Il y avait plusieurs dieux, il y avait plusieurs formes d'adoration, il y avait des histoires religieuses, il y avait de la culture qui était définie selon les familles, selon les tribus, selon les villes, selon les pays. Les gens vivaient dans leur monde à eux, il n'y avait pas de technologie. Alors, il y avait leurs croyances, il y avait leurs convictions. Il faut se mettre à l'époque de l'Acte des apôtres. Les gens pensent certaines choses, ils ont leurs petites, seulement les petites familles pensent d'une certaine façon, et l'Évangile arrive. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est l'Évangile. Homme juif nommé Jésus était Dieu en chair, sauveur du monde, rejeté par les Juifs, son propre peuple, crucifié par Romains, par les Romains, ressuscité d'entre les morts, seul sauveur de l'humanité, apporte la repentance des péchés, et vous devez croire en lui, sinon vous allez en enfer. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est le vrai message de l'Évangile. Alors, pour les Juifs, c'est un scandale. Puis pour le monde, c'est de la folie. Pourtant, le Saint-Esprit, la grande commission avec l'aide du Saint-Esprit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le message était clair. C'est ce que Pierre a fait, c'est ce que Paul a fait. Un message, un évangile. Jésus-Christ crucifié, enseveli et ressuscité, seul sauveur du monde. C'est le message du livre des Actes. Paul a dit, « Car je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus. » Jésus crucifié. Alors, les apôtres, les prophètes, l'Église primitive ont proclamé le vrai message de Jésus. À Rome, aux gens illettrés, aux gens instruits, aux gens qui étaient aux libres, aux esclaves, aux hommes et femmes, aux juifs, aux grecs, ils ont bouleversé le monde de l'époque avec l'Évangile de Christ. Et le message n'a pas changé. En passant, les lettres de Paul, les lettres de Pierre, les lettres Jacques, Jean et Jude n'ont pas été adaptées selon la culture, selon les Juifs ou les gentils à l'époque. Paul a donné ses lettres, ses épîtres. Puis 2000 ans plus tard, on les lit encore. Pourquoi? Parce que c'est un message transcendant, c'est un message qui est parfait, qui est unique en son genre. Aujourd'hui, nous adaptons le message de l'Évangile selon le code postal. C'est une forme de contextualisation. Ah, vous savez, c'était le contexte à l'époque, avec des apôtres, c'était d'une certaine façon. Aujourd'hui, c'est autre chose, on ne veut pas froisser personne. Le message aujourd'hui, les prédications aujourd'hui sont diluées. Il y a des choses qu'on ne veut plus parler. La repentance, le pardon des péchés, la sainteté. Vous savez que les lettres de Paul, quand Paul écrit ses lettres, les nouveaux chrétiens n'avaient aucune connaissance de l'Ancien Testament. Qui avait la connaissance de l'Ancien Testament à l'époque? C'était les Juifs. Alors, les gens qui acceptaient le Seigneur n'avaient aucune connaissance de l'Ancien Testament. Mais le message reste pareil. Le message a une puissance. C'est un message qui est transcendant. On ne doit pas le changer, le contextualiser. Le seul contexte, c'est un contexte biblique. Alors, première marque d'une croissance, de la croissance de l'Église, c'est un message qui est transcendant, le même message de l'Évangile. Deuxième marque d'une Église qui est en croissance, c'est une congrégation régénérée. L'assemblée est une assemblée de blé et non d'ivraie. On dit que l'ivraie ressemble beaucoup au blé, mais ce n'est pas du blé, c'est du faux blé. Alors, l'Église est, autant que possible, l'Église est une assemblée de blé et non d'ivraie. C'est certain que c'est pas parce que tu vas dans un restaurant chinois que tu es un Chinois. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es nécessairement un chrétien. C'est certain. Mais il y a des gens qui essaient d'attirer le plus de monde possible à l'église, des gens non convertis, puis ils vont leur donner ce qu'ils veulent bien entendre. Ça, c'est la mode. Ça commence tranquillement. Mais ça, ce n'est pas une église. C'est une assemblée de non-croyants qui marchent selon leurs propres désirs. L'église, c'est une assemblée de croyants. Jésus a dit, « Je bâtirai mon église » et le Seigneur ajoutait à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, vous ne faites pas partie de l'église. Il y a des gens qui se sentent confortables dans certaines églises parce que le message est dilué. On tolère certaines choses, le concubinage, la fornication, l'homosexualité. Mais ce n'est pas ça qui devrait arriver. Un non-croyant devrait se sentir étranger dans l'Église. Et non pas quelqu'un qui rentre dans l'Église, puis tout est beau, il n'y a pas de problème, puis il ne se sent pas interpellé. Un non-croyant devrait être étranger, puis être attiré par la transformation qu'il voit dans la vie des gens d'Église. Qu'il soit interpellé par le sermon du pasteur, par l'exemple, le témoignage, afin qu'il soit sauvé. Et non pas d'attirer le plus grand nombre de personnes dans l'Église et d'en faire un club social. L'Église n'est pas un club social. Chapitre 2, dans le livre des Actes, 3000 personnes sauvées et dévouées dans la doctrine des apôtres. Enseignement, fraternité, repas, prière, prodiges et miracles. On voit moins ça aujourd'hui. Prodiges et miracles. Ils mettaient leurs biens en commun. Pourquoi ils mettaient leurs biens en commun? Parce qu'il y a des gens qui venaient de l'extérieur, sont sauvés, ils veulent rester à Jérusalem, ils veulent aller à l'église de Jérusalem. Il n'y a seulement qu'une église, c'est Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont dit un instant, on va tout mettre nos biens en commun pour qu'on puisse pourvoir à ces gens-là pour qu'ils restent à Jérusalem. Il est dit dans la Bible, avec le même esprit dans le temple, des repas, ils prenaient des repas ensemble, il y avait de la joie, il y avait de la sincérité de cœur, il y avait de la louange pour le Seigneur, ayant de la faveur pour leurs frères et sœurs, et le Seigneur ajoutait à chaque jour des croyants. Ça, c'est une église. Une église, c'est un groupe de croyants qui viennent ensemble pour entendre la vérité biblique, doctrine des apôtres, partageant leur vie, viennent à la table du Seigneur, célèbrent la croix, priant, louangeant, se sacrifiant pour les autres par la grâce de Dieu. Ça, c'est une église. Même esprit, même cœur, même âme. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Ça, Paul André, c'est pas une église, c'est une secte. Ça ressemble à une secte, c'est du socialisme. Mettre ça en commun, mettre les choses en commun, puis rester à part du monde. Vendre ses biens dans le but de le donner au moins, de donner nos biens au moins nantis. Non, je m'excuse. Vendre nos biens, les donner au moins nantis, on appelle ça de la générosité. Ça, c'est seulement quelqu'un qui est régénéré par le Saint-Esprit qui peut faire ça. On appelle ça de la générosité. L'Église, c'est une assemblée de personnes régénérées. Un amour pour la Bible, pour la doctrine biblique, la fraternité, la prière, la communion des saints. Une assemblée de croyants régénérés, dévoués à Christ, joyeux, se sacrifiant pour les besoins de la cause. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Ajoutait à chaque jour des gens dans l'Église. La Bible dit que le non-converti devrait arriver dans l'Église à être bouleversé, tomber sur ses genoux et dire « Dieu est dans cet endroit ». Pourquoi? Parce que l'Église est un avant-goût du royaume de Dieu au ciel. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 24, « Qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Le but de l'Église n'est pas de donner un avant-goût de ce qui se passe dans le monde. C'est un endroit où Dieu est honoré. C'est une Église. C'est un crime spirituel de vouloir attirer des non-croyants et de les garder. 2 Corinthiens nous dit de nous séparer, spirituellement, de nous séparer des non-croyants. Oui, on peut les garder pour un temps. Si on veut attirer des gens, si on veut attirer des non-croyants dans l'Église, on appelle ça de l'évangélisation. C'est qu'on fait une campagne d'évangélisation puis on veut toucher les non-convertis afin qu'ils puissent se convertir. Les non-croyants ne devraient pas rester à long terme dans une église. La Bible dit que l'injuste ne peut pas rester dans l'assemblée du juste. À un moment donné, il y a quelque chose qu'il va voir, il y a quelque chose qu'il va se sentir mal à l'aise. Je me rappelle à un moment donné que quelqu'un dans ma famille, il sortait avec, il y avait une amie, puis lui était croyant, il était chrétien, puis elle ne l'était pas, puis il l'amenait à l'église. Puis il dit, elle ne connaissait pas ça, l'église. Elle dit, oui, je vais aller à l'église, il n'y a pas de problème. Puis elle a commencé à aller à l'église, et à un moment donné, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, elle dit, je ne suis pas capable. Elle dit, je ne peux pas rester, elle dit, j'ai mal au ventre. Elle dit, je me sens mal à l'aise. Puis elle est venue comme ça quelques fois, puis elle n'est jamais retournée. Elle n'était pas capable de rester dans l'assemblée. Quand la parole de Dieu est prêchée, quand il y a le message de l'Évangile, quand il y a les mouvements de l'esprit dans une église, le non-croyant est saisi. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, de dire que des non-croyants peuvent rester dans une église, oui. Mais de voir que des non-croyants qui restent, et l'église qui est faite beaucoup de non-croyants, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui n'est pas biblique. Alors, deuxième marque d'une église qui va croître selon Actes des Apôtres, une congrégation régénérée. Troisième marque, de la persévérance. Ça prend beaucoup de persévérance, frères et sœurs, pour être chrétien. Parce que ce n'est pas facile. Puis Paul a dit, est-ce qu'on va être capable de terminer la course? On va la commencer, mais est-ce qu'on va pouvoir la terminer? Vous savez, l'Église n'est pas populaire. Dans une église, on devrait avoir une certaine tension. Chapitre 2, avec des apôtres, encore une fois, les gens sont transformés, il y a de la fraternité entre eux. Chapitre 3, Pierre se rend au temple, guérison, en passant. Tout le monde est content, remercie Dieu. Le monde extérieur les regarde, puis sont étonnés. Voir l'intégrité, l'amour, la paix, la joie. Mais malgré cela, chapitre 5, verset 13, « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. » Alors, ils voient qu'est-ce qui se passe, le peuple voit ces choses-là, puis ils sont étonnés et vont peut-être les louer, mais n'osent rien faire. Mais ça nous demande une certaine persévérance de la part des saints. Le monde est stupéfié par la transformation des gens de l'Église. Les gens vont vous dire, vous êtes transformés, il y a quelque chose que tu as dans ta vie. C'est quoi que tu as? Tu as changé. Mais ils rejettent notre message. Et cela, on le voit dans tout le livre des Actes. Malgré qu'ils sont stupéfiés, malgré qu'ils sont... qui voient notre changement, ils rejettent notre message. Ça n'a pas pris de temps que Pierre, l'apôtre Pierre, a été arrêté, a été mis en prison. Ça n'a pas pris de temps que Jacques, l'apôtre Jacques, a été exécuté, a été tué. Ça n'a pas pris de temps avant que l'Église soit persécutée par Saul de Tarse. des chrétiens qui ont été capturés, des chrétiens qui ont été emprisonnés, certains chrétiens qui ont été tués comme Étienne. Et quand Saul s'est converti à son tour, ça n'a pas pris de temps, ça n'a pas pris de temps qu'il y ait un plan pour le mettre à mort lui aussi. D'un côté, le monde voit une transformation dans nos vies, il voit notre intégrité, notre espérance, nos valeurs, il nous estime d'une certaine façon, mais de l'autre côté, le monde n'aime pas le message de l'Évangile, et surtout d'être appelé pécheur. Un pécheur n'aime pas se faire dire qu'il est un pécheur et qu'il va en enfer s'il ne se repent pas. Il n'aime pas se voir dire que ses œuvres sont inutiles, que c'est la seule façon d'être sauvé, c'est la croix. Matthieu, chapitre 14. Hérode et sa femme Hérodias, alors que Jean le Baptiste lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérode avait la femme de son frère. Il dit, puis Hérode était mal à l'aise avec ça. Puis qu'est-ce que Hérodias a fait? Il a fait tuer Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce qu'Hérode voyait que ce qu'il faisait était mal. Alors, il était mal à l'aise. Les gens n'aiment pas se faire dire qu'ils sont pécheurs. Il y a quelque temps, il y avait un magazine qui avait organisé un rallye de voitures sport. Et je disais ça, là, il y avait un rallye pour une cause. Tout le monde amenait son bolide, Porsche, Corvette, Lamborghini, là, etc. Puis il y avait un souper à, peut-être plusieurs centaines de dollars. Tous les fonds étaient pour une cause. À la fin de la journée, il y avait un montant qui était remis pour un organisme. Et c'est pas mauvais, en mon sens, c'est pas mauvais. Mais voyez-vous comment que les gens pouvaient être des gens qui ont des sous, des gens qui viennent montrer leur bolide, des gens qui vont prendre un repas, des gens qui vont se montrer, des gens qui vont se pavaner. Des gens qui vont dire, ben d'un côté, j'ai fait ma petite BA, ma petite œuvre aujourd'hui pour ramasser des sous. Mais comment qu'il n'y a pas d'humilité? Comment que ces gens-là vont... Voyez-vous? Alors, pas que l'œuvre est mauvaise en ce sens, mais les gens vont être orgueilleux, les gens vont se vanter parce qu'ils font des œuvres. Et nous, c'est le contraire. On dit, tu n'as pas besoin d'œuvre. Parce que tu es un pécheur, tu as besoin de la croix de Christ. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens veulent faire des œuvres. Alors, l'Église doit persévérer. S'il n'y a pas de compromis avec le monde va vous haïr. Ils vont être impressionnés par vos convictions. Mais cela ne les empêchera pas de vous jeter en prison. Quand un gouvernement, une nation, une société qui rejette la Bible, alors il n'y a aucun fondement de moralité. Il y a une nouvelle moralité, c'est que le mal est bien et le bien est mal. Alors là rentre la fornication, l'adultère, l'homosexualité, l'avortement. Il y a de la tolérance, mais il y a de l'intolérance pour les valeurs chrétiennes. Et il y a de la persécution qui arrive après ça. Est-ce que ça se peut qu'on soit persécuté même dans nos familles? Est-ce que ça se peut que même dans nos familles, qu'il y a des gens qui peuvent nous persécuter? Qui peuvent rire de nous? Et cela met de la tension, cela met de la pression dans l'Église. Alors, c'est pour ça qu'il faut persévérer. L'Église a toujours été persécutée, en Europe de l'Est, en Chine, aux pays musulmans. Il y a des endroits, c'est très, très dur. Ça prend de la persévérance. Est-ce que la persécution vide les églises? C'est le contraire. Ça construit l'Église. Chapitre 4, encore dans l'Acte des Apôtres. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Malgré qu'il y a de la persécution, il y a une croissance de l'Église. La persécution n'arrête pas l'Église. Les persécutions d'Hérode n'ont pas arrêté l'Église. Parce que personne ne peut arrêter la croissance de l'Église. Parce que c'est de Dieu. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Chapitre 12, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques et fit arrêter Pierre. Ça, c'est ce qu'Hérode a fait. Malgré cela, quand même, un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Alors oui, Hérode a mis persécuter l'Église, et Dieu peut, à un moment donné, tôt ou tard, reprendre. Et vraiment, reprendre pas la personne, mais faire peut tuer une personne qui persécute l'Église. Mais l'œuvre du Seigneur continuait malgré les persécutions. Notre message est haï du monde, et malgré qu'il nous respecte, le monde va nous persécuter. Pourquoi? Parce qu'il haït plus le message qu'il a du respect pour nous, tout simplement. Alors, la marque d'une Église qui est croissante, c'est de la persévérance. Beaucoup d'Églises aujourd'hui, il y a des gens se demandent pourquoi cette église-là est pas il n'y a pas eu de croissance. Souvent, ils disent non, l'église-là est morte ou il y a des gens qui ont quitté, c'est ici, c'est ça, le pasteur n'est pas bon, blablabla. Ce n'est pas ça. Souvent, c'est de la persévérance. C'est des gens qui quittent l'église. Demain matin, si on demandait à tous les gens qui ont quitté depuis plusieurs années, il y aurait beaucoup plus de gens dans l'église. Les gens manquent de persévérance. Ça prend de la persévérance, frères et sœurs. Ça prend de la persévérance pour venir ici à chaque dimanche. Il ne faut pas faire de compromis, même s'il y a de la persécution. Quatrième marque d'une Église qui est en croissance, et la dernière, c'est la pureté. Chapitre 5. Être des apôtres, encore une fois. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Avez-vous remarqué, 3 heures plus tard, sa femme entra? Est-ce que la réunion est encore là? Est-ce que la réunion ne finit plus? Est-ce que les réunions dans ce temps-là étaient beaucoup plus qu'aujourd'hui? Une heure et demie, on parle de 3 heures. L'assemblée est encore là, sa femme 3 heures plus tard arrive. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, oui, » répondit-elle, « c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Début de l'Église, Dieu est clair. Dieu met un message. On veut avoir de la pureté dans l'Église, on veut avoir de la sainteté dans l'Église. Il y a une grande crainte qui s'est emparée de l'Église. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Sainteté de Dieu, justice de Dieu, discipline de Dieu. On part l'Église, il y a des gens qui meurent dans l'Église. C'est très tragique. Pourtant, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient augmentait de plus en plus. Alors, ça augmente quand même. Pourquoi? Parce que l'Église grossit quand l'Église est pure. La vraie Église du Seigneur Jésus-Christ va grossir, va croître parce que l'Église est pure. Matthieu 18, confronter une personne qui a péché, sinon aller chercher deux ou trois témoins et le dire à toute l'assemblée. Quand il y a des gens qui ont péché dans l'Église, c'est quelque chose de grave, on veut que l'assemblée le sache. Si la personne ne veut pas se repentir, on veut que l'assemblée, on veut aller chercher deux ou trois témoins pour vraiment que la personne puisse se repentir. Et si elle ne veut pas, malgré deux ou trois témoins, d'aller chercher l'assemblée au complet et de l'amener, cette personne-là, devant l'assemblée. Pourquoi? Parce que le Seigneur désire que son Église soit pure. Il y a quelques années, il y avait des responsables de jeunesse, deux jeunes, là, qui étaient responsables dans une église, qui étaient supposés de se marier peut-être dans l'été ou dans l'année. Puis, une jeune fille et un jeune homme, et la jeune fille est tombée enceinte. Alors, ces jeunes-là avaient vraiment une influence sur les jeunes de l'Église, parce qu'ils étaient les responsables de toute la jeunesse de l'Assemblée. Alors, le pasteur est allé voir, il dit, on a un problème, parce que là, vous allez vous marier bientôt. Il s'adresse à la jeune fille qui est enceinte. C'est pas un bon exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'un commun accord, la jeune fille et le jeune homme se sont présentés devant toute l'assemblée et ont confessé devant l'assemblée leur écart de conduite. Et il y a eu des sanctions et ils se sont repentis. Ça prend l'humilité. Mais on ne voulait pas donner un mauvais exemple aux jeunes. Alors, il a fallu sévir. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'Église soit pure. Ça, c'est le plan de Dieu. La croissance de l'Église, tuer des gens, faire peur au monde. Et c'est ça, dans Actes des Apôtres, est-ce que c'est ça, pasteur, la croissance de l'Église? Tuer des gens, faire peur au monde, c'est ça l'Église? Non, ce n'est pas ça l'Église. On ne veut pas tuer des gens, on ne veut pas faire peur au monde, mais on veut parler de sainteté dans l'Église. Dieu ne veut pas de péché dans l'Assemblée. Parce que Dieu est un Dieu trois fois saint. La dernière marque, la pureté dans l'Église. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on dit ce matin. Tout est dans le livre des Actes. Si on veut avoir une Église qui va croître, si on veut avoir une Église qui va aller selon le plan de Dieu, on doit aller avec les Écritures. Très important, frères et sœurs, de faire attention avec les églises qui ont une croissance très rapide. Aux États-Unis, on dit que 85% de la croissance de l'Église vient justement parce que les gens changent d'assemblée. Alors, faisons attention, frères et sœurs, de quand on voit la croissance d'une église, alors qu'il y a des églises qui sont en décroissance. Comme je dis souvent, 1 plus 1 égale 2, 2 moins 1 égale 1. 1 plus 1 égale 2, 2 moins 1 égale 1. Alors, il y a des gens, il y a des églises qui ont une bonne croissance, mais il y a des églises qui ont de la décroissance. Alors, ce n'est pas parce qu'une église a beaucoup de gens, la qualité d'une église, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'assemblée. Alors, souvent, il y a des gens, il y a des stratégies, il y a des choses marketing qui vont faire attirer, qui vont vouloir attirer des gens dans l'église. La croissance de l'Église spirituelle, c'est comme dans Actes des Apôtres. Alors, on parle de quoi? On parle d'un message de l'Évangile. On parle d'une congrégation régénérée. On parle de la persévérance et de la pureté dans l'Église. Si on prend cette direction-là, frères et sœurs, on va être dans les plans de Dieu. Je crois sincèrement qu'il va y avoir une certaine croissance. Alors, tout ce qu'on a besoin est dans le livre des Actes. Et on doit se référer dans le livre des Actes, au livre des Actes, pour vraiment avoir une bonne stratégie de croissance, mais selon les Écritures. Amen.